En fait, Janet, elle a résumé toute ma prédication en 2-3 phrases. Il y a le temps, on va la faire quand même. C'est l'idée de... Elle l'a dit mieux que moi en plus. C'est l'idée que... Là, c'est pas parce que je me suis tourné vers le Seigneur il y a 10 ans, il y a 20 ans, ou il y a 2 ans, ou voilà, que voilà, tout est terminé, il n'y a plus rien à faire. On a l'impression que voilà, il y a la conversion, et puis bon, bah voilà, c'est bon, je suis converti. Et en fait, l'idée de ce que je voulais dire ce matin, c'était qu'il y a, toute une suite après, toute une conséquence, et il y a toute une transformation qui doit continuer. Et en fait, ça doit... Ouh, ça résonne fort. Il y a toute une transformation pratique qui doit avoir lieu, en fait. Et on a tendance peut-être, à force d'être dans l'Église, à conceptualiser beaucoup, à donner beaucoup d'idées, et pas avoir le côté pratique des choses. Et peut-être remarquer que quand je prêche, j'aime bien souvent mettre des trucs assez terre-à-terre, pratiques, parce que c'est ça qui... Bah, c'est ça qui change, c'est ça qu'on voit dans notre vie, en fait. Les changements doctrinaux, toutes les grandes pensées, bon, ça ressort pas forcément beaucoup de notre vie. Mais tous les changements pratiques, tout ce qui se passe dans notre vie, ça, on le voit, et ça, c'est important. Alors, j'aime bien toujours aussi prendre des exemples dans le Nouveau, dans l'Ancien Testament. Tout est cohérent, et en fait, tout se rejoint. Et je me posais la question, est-ce qu'il y a un exemple de conversion au Seigneur dans l'Ancien Testament ? Puis je me suis dit, bah, en fait, j'en ai un qui est pas habituel, c'est un roi de Babylone, et c'est Nebuchadnezzar. Et son exemple, il est assez... Il est assez marrant, en fait, parce que, ouais, il s'est converti, et en même temps, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment... Bah, ça, c'est un exemple bizarre, j'ai trouvé en le lisant. Donc, Nebuchadnezzar, vous le connaissez, c'est un grand roi de Babylone, c'est lui, en majorité, qui a conquis Israël, qui a été à Jérusalem, qui l'a assiégé, qui l'a vaincu, et qui a opéré 3 déportations. Donc, qui a déporté les Juifs, après, dans son royaume. Il a battu l'Égypte aussi. Donc c'était vraiment quelqu'un de très important à l'époque. Les rois de Babylone avant lui, ils n'ont pas fait des choses forcément aussi grandes que lui. En tout cas, dans la région d'Israël, c'est lui qui a vraiment pris la main dessus et qui a écrasé tout le monde et qui a pris la main définitivement. Jérémie parle de lui, donc dans Jérémie 27, verset 8. « Si une nation, si un royaume ne se soumet pas à lui, à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et ne livre pas son cou au joug du roi de Babylone, « je châtirai cette nation par l'épée, par la famine et par la peste, dit l'Éternel, jusqu'à ce que je l'ai anéanti par sa main. » On a l'impression que ce verset-là, il n'y a pas de rapport avec le reste, mais je tiens à le dire parce qu'après on comprend mieux le châtiment et tout ce qui se passe avec Nebuchadnezzar. Alors, à part ce verset-là de Jérémie, on retrouve forcément son histoire dans Daniel, puisque tout se passe à Babylone, et on le retrouve dans le Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3, le verset 1. « Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. » Donc ça vous rappelle juste l'histoire de la statue qu'il a fait ériger. Et en fait, il voulait que tout le monde se prosterne devant cette statue. Pas qu'elle le symbolisait lui, forcément, mais il l'avait fait et il voulait que tout le monde obéisse. C'est tout. Donc c'est ce qu'on lit après au verset 4. Un héros cria à haute voix : voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toutes les langues. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Donc ça, c'était la sentence. Et vous connaissez l'histoire, c'est qu'en fait, il y a des gens qui vont aller le voir, qui vont dire « Hey, il y a des Juifs dans ton royaume, là, ils obéissent pas à ce que tu as fait, et il faut les punir. » C'était juste contre les Juifs, c'était l'occasion d'aller en punir quelques-uns. Et donc ça, c'est ce qu'on lit après au verset 12. Donc le verset 8 dit « C'est quelques Chaldéens qui s'approchèrent et accusèrent les Juifs. » Au verset 12... Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. » Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit : « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée ? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez, vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Alors je vous lis cette histoire-là, on a l'impression que ça n'a aucun rapport avec la conversion, mais on voit le Nebuchadnezzar avant, en fait. Avant qu'il, dans un sens, qu'il rencontre le Seigneur, qu'en tout cas qu'il se tourne vers Dieu. On le voit qui est irrité et furieux pour la simple et bonne raison que les hommes lui ont pas obéi. Déjà, il réfléchit pas beaucoup, il leur donne pas beaucoup l'occasion non plus de s'expliquer, il leur dit « Bon, voilà, je vous donne une deuxième chance, vous le faites pas, je vous jette dans la fournaise, et puis c'est tout. » Et son comportement, voilà, « Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Et je pense que c'est ça qui a été un départ, certainement, au niveau de Dieu, de dire « Là, il y a quelque chose qui va pas dans ce comportement, dans cet homme, et je vais lui remettre les choses en ordre, et il va comprendre que c'est moi qui lui permets toutes choses. » Je vous rappelle le verset de Jérémie, c'est Dieu qui dit que si une nation ou si un royaume ne se soumet pas à lui, à Nebuchadnezzar, Dieu va châtier cette nation par l'épée, par la famine et par la peste. Et c'est Dieu, il dit, jusqu'à ce que je l'ai anéanti par sa main. Et toujours les façons de faire un peu particulières de Dieu, hein. C'est lui qui le fait, mais avec notre main. Et là, Dieu le dit à Israël lui-même, c'est moi qui fais ces choses-là. J'utilise sa main, mais c'est moi qui les fais. Et là, Nebuchadnezzar, il est en train de dire, c'est moi qui fais ça, c'est à moi que vous allez obéir. Et il n'y a aucun Dieu qui peut vous délivrer de ma main. Donc il y a quelque chose là qui ne va pas. Et donc vous connaissez la suite, hein, ils ne vont pas forcément obéir au roi. Et puis ils vont se faire jeter dans la fournaise. Et on va les retrouver avec une quatrième personne dans la fournaise. Et ils vont ressortir sans aucune brûlure, sans rien, pas une trace de fumée. Et donc on le voit au verset 24 même. « Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. » Déjà, pour qu'il soit effrayé, ce roi-là, je pense qu'il fallait quelque chose de... Voilà, fallait le secouer un bon coup. Il était capable d'aller écraser beaucoup de gens, d'aller torturer beaucoup de gens et de faire tout un tas d'atrocités. Et là, c'est lui qui a eu peur ce coup-ci. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu de feu trois hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et donc les trois sortent du feu. Et au verset 28, on retrouve Nebuchadnezzar qui dit, « Il prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre dieu que leur dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qui l'appartienne, qui parlera mal du dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre dieu qui puisse délivrer comme lui. » On a l'impression qu'il a changé un peu. En tout cas, ça l'a secoué, hein, visiblement. Et il a intégré que voilà, il y avait un Dieu qui était plus fort que lui et qui était capable d'aller au-delà de ses décisions à lui, le roi. Mais on va voir par la suite. Le chapitre d'après montre en fait l'histoire de l'arbre. Là aussi, vous le connaissez. Nebuchadnezzar va faire un rêve. Et il va arriver qu'il y a un grand arbre avec un tas d'animaux qui sont protégés par l'arbre. Et que cet arbre, on va l'abattre. Et donc il va demander l'explication et seul Daniel pourra lui donner. Mais donc cette histoire d'arbre en fait, ça c'est la suite, on va dire c'est une conversion en plusieurs temps chez Nebuchadnezzar. Il y a eu un premier coup là avec l'histoire de la fournaise et l'histoire de l'arbre c'est le deuxième temps. On voit qu'il a changé au terme qu'il utilise voilà si. J'ai perdu ma ligne. Voilà. Serviteur du Dieu suprême, sortez et venez. Ah ça, on reconnaît déjà qu'il a compris que Dieu était plus grand que lui. Après, par contre, sa façon de faire, elle est un peu bizarre. Bah, celui qui adore pas Dieu, je démolis sa maison, je le réduis en rien, et voilà. C'est pas encore nickel, on va dire, comme comportement. Mais Dieu va lui remettre vraiment les choses en place avec la deuxième histoire. C'est lui-même, en fait, qui le raconte. Si c'est un changement dans le livre de Daniel. Donc le chapitre 4, il commence. Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue, qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Ah, c'est mieux déjà le début, hein. Il commençait par tout raser, par l'attaquer des pays, et puis là maintenant on le retrouve que la paix vous soit donnée avec abondance. Là on sent qu'il y a eu un vrai changement. Et ça, il explique après coup cette histoire-là. Il y a vraiment eu l'affaire avec l'arbre et le songe. C'est vraiment la partie finale de sa conversion. Alors, on lit tout ça à partir du verset 28. Donc Daniel chapitre 4, verset 28. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit: N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Il n'a rien compris. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des animaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Pas forcément lire tout ce qu'il écrit après, mais voilà. Là, on sent vraiment le changement qui a été complet. Et quand c'est lui qui dit la domination appartient à Dieu, c'est lui qui a le règne éternel. Ça, de la part du roi qui maîtrisait tout et qui disait avant: Ah, c'est moi qui ai construit tout ça par ma gloire, par ma force. Là, il y a eu un travail profond et on voit le changement qui est dans sa vie. Et dans Daniel chapitre 5, en fait, on parle du roi suivant. Et Daniel réexplique au roi ce qui s'était passé avec Nebuchadnezzar et il donne la raison. Bon, on l'a lu, hein, mais. Donc Daniel chapitre 5, verset 18, Daniel explique: Au roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait, il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Donc là, on voit vraiment le grand changement de Nebuchadnezzar. Mon deuxième exemple de changement, de transformation comme ça, du coup, je l'ai pris dans le Nouveau Testament et j'ai eu peur qu'on en dise trop et aujourd'hui et Paul la fois dernière, parce que c'est Paul, justement. Et Paul avait commencé, il n'a pas eu beaucoup de temps la semaine dernière, ça m'a arrangé, sinon il m'aurait balayé une grande partie de ma prédication aussi. Limite, on peut s'en passer d'en parler Paul, c'est super connu, quoi. On sait comment il était avant, comment il est devenu, enfin, on sait surtout comment il est devenu, parce qu'on lit ses épîtres, on voit comment il parle, qu'est-ce qu'il dit. Et on voit vraiment que c'est un homme de Dieu, personne ne se pose la question. Donc, je vais juste relire quelques passages qui disent comment il était avant, pour vous montrer qu'il y a vraiment un contraste flagrant entre les deux. La conversion, c'est pas juste, tiens, j'ai changé d'avis, allez, ouais, Jésus, c'est bien le Seigneur, allez, je suis d'accord. Et puis je continue à faire la même chose. Ce serait ridicule. Et si Paul avait fait ça, bah, il aurait continué à massacrer des chrétiens en se disant que Jésus était Seigneur, mais voilà, ça ne changeait pas grand-chose à sa vie. J'espère que ça vous fait réagir un peu, hein. Mais voilà, Paul, il a compris que Jésus était Seigneur et toute sa vie a été transformée. C'était inclus avec, en fait. Donc le Paul d'avant la conversion, il s'appelait Saul, d'ailleurs. Lui, c'est bien, il y a eu un changement de nom qui montre que qui accompagne le changement de personnalité, le changement de comportement. On le lit dans Actes 22. Acte 22, verset 3. Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Et dans Acte 26, on retrouve plus ou moins la même chose. Acte 26, verset 9. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. Il y a d'autres passages hein, où il explique, mais quand on voit rien que c'est ça, le joignais mon suffrage à eux quand on les mettait à mort, je les châtiais dans toutes les synagogues, je les forçais à blasphémer. Là, ça commence à aller loin quand même. Hein. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais. Alors, ça, c'était le Saul d'avant. Et le Paul après, bon, on pourrait lire en exemple tout le Nouveau Testament quasiment, mais je pense que quand on lit 1 Corinthiens 13, tout ce qu'il dit sur l'amour, le Saul de Tarse ne pouvait pas dire ça. Il était rempli de haine envers les chrétiens. Il est certainement un amour comme les gens du monde peuvent l'avoir. Mais il ne pouvait pas écrire ça, en fait. Ça, c'était vraiment la traduction de tout ce qui s'est fait dans sa vie et du vrai amour qu'il a connu. J'ai pris quand même deux paragraphes qui donnent qui montrent un peu quand même le changement de Paul. Il y a 1 Timothée, chapitre 1. Timothée chapitre 1 au verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Ça se passe de commentaires. Philippiens 3. Philippiens 3, verset 4. Vous remarquerez que je lis beaucoup, beaucoup de passages. Ça permet de limiter ce que moi je dis et de limiter les bêtises au moins. Philippiens 3, verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Voilà. Pareil, pas grand-chose à commenter. Il dit exactement ce à quoi il s'attachait avant. Il était hébreu, né d'hébreu, de la race de Benjamin, circoncis le huitième jour pour observer la loi. Tout ça, il le regarde comme de la boue. Il le regardait comme un gain avant, et maintenant, il le regarde comme un boue, comme de la boue, pardon. Il le regarde comme une perte. C'est tout le changement de valeur qui s'est accompagné de sa conversion, et que c'est pas Paul, il n'a pas juste cogité après dans sa tête et écrit des jolies choses doctrinales, théoriques. Il y a vraiment eu une application dans sa vie. Il a changé tout son système de valeurs. Voilà, tout ce qui était avant, qui valait cher, qui était important, bah maintenant c'est de la boue, ça vaut plus rien. Et toutes les choses qui avant finalement il persécutait, qui n'avaient pas de valeur à ses yeux, c'est devenu cher, c'est devenu de valeur. Alors, en fait, on peut lire quasiment toutes les lettres de Paul. On va le faire, mais pas toutes les lettres quand même. On va lire un petit passage de plusieurs lettres et voir qu'en fait, quand on lit les lettres de Paul, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, c'est pareil, des fois on découvre des trucs, on se dit que tout le monde le sait, mais comment être clair avec tout ça? En fait, il y a 15 jours, je ne savais pas du tout quoi faire. Et souvent, je mets longtemps à préparer les prédications et je commençais un peu à baliser, quoi. Je me dis, ah, qu'est-ce que je vais faire? Et puis, 15 jours, d'habitude, j'ai déjà commencé. Et puis, en fait, aucune idée. Et en fait, j'ai lu dans Éphésiens, il me dit, ah, ce verset-là est vachement bien. Hop, j'ai pris. Ah, bah, celui-là aussi, dis donc. Ah, bah, ça aussi. Et puis après, bah, en fait, en relisant, quand on passe Éphésiens, il y a aussi Philippiens, Colossiens, et voilà. Et en fait, je me suis aperçu que cette idée-là, que j'ai découverte, alors que, on lit la Bible des dizaines de fois ou plus dans notre vie. Et il y a des trucs qu'on découvre comme ça, alors que ça y était depuis le début, en fait. Et j'ai découvert qu'il y avait toutes les lettres de Paul, elles traduisent le changement dans sa vie. Dans toutes les lettres de Paul, on voit ces histoires de changement, pas juste de conversion. C'est un peu, j'ai envie de faire la différence entre les deux, de pas juste qu'il s'est tourné vers le Seigneur et voilà qu'il a accepté le Seigneur dans sa vie, mais de changement après pratique dans la vie. Et je me suis aperçu que dans Éphésiens, il y a plein de trucs qui parlent du changement. Et pareil dans Philippiens, Colossiens, il me dit, mais en fait, il parle que de ça, Paul. Et je l'avais jamais vu. Voilà. Donc Galates. On peut commencer par Galates, chapitre 4. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ce qui était sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Alors voilà, on voit clairement le changement quand on lit ça. C'est vous étiez des enfants. Nous étions enfants. Nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde, des bases, des rudiments. Mais Dieu a fait son œuvre. Il a envoyé son Fils. Et parce que vous êtes fils maintenant. Il suffit de regarder les temps en fait des verbes et on voit ce qui était avant, l'œuvre de Dieu et le changement après. Voilà, je suis devenu fils, je suis devenu héritier. Et Paul il dit, mais avant, vous connaissiez pas Dieu, vous faisiez des choses, voilà, vous serviez des dieux, des faux dieux, mais bon, voilà, vous connaissiez pas Dieu. Maintenant que vous le connaissez, ça doit changer, vous pouvez plus faire les choses que vous faisiez avant, parce que vous connaissez Dieu, justement. C'est le point de départ de tous les changements après. Donc c'est juste un petit bout, un petit extrait de Galate. Après, il faut lire toutes les lettres chez vous, on n'aura pas le temps. Colossiens. Colossiens chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ça, c'est limite un peu théorique quand même. Hein. Mais voilà, avant, vous êtes... Enfin, c'est un peu... C'est pas dit, mais c'est quand même dit. C'est avant, vous attachiez aux choses d'en bas, maintenant, attachez-vous aux choses d'en haut, là où Christ, il est. Donc c'est ça le changement de façon de regarder les choses. Et la conséquence pratique, elle vient après. Ça, Paul, souvent, il fait ça comme ça, quand même, je trouve. Il dit des choses un peu théoriques, voilà, on les comprend ou pas. Et après, il donne l'application bien pratique dans la vie et des exemples très, très concrets. Donc, au verset 5. « Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. » C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Ça, c'est avant. Je faisais toutes ces choses-là, je faisais partie des fils de la rébellion. Mais maintenant, au verset 8, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Encore, on voit le « avant, je faisais partie de ça, maintenant je fais partie de ça ». Et si vous travaillez rien que les versets 5 à 8, essayez de voir un peu dans votre vie, voilà, avant, c'était l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, l'idolatrie, et je dois renoncer à tout ça. Déjà là, vous avez un petit côté pratique à essayer de voir dans ma vie, est-ce qu'il y a encore des traces de tout ça, ou est-ce que Dieu a bien tout éliminé, est-ce que je dois encore travailler à tout ça, ou est-ce que c'est bon, ça c'est fait, il y a encore autre chose, hein, ne vous inquiétez pas, il y a toujours du boulot. Au verset 8, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, ça c'est des trucs bien pratiques, hein, c'est plus de la théorie, à la calomnie, ça, la calomnie c'est compliqué aussi, on s'en aperçoit. Aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Donc ça nous dit qu'avant, on était revêtu du vieil homme et de ses œuvres, et que maintenant on revêt l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance de Christ. Il y a deux idées. Il y a le fait que, voilà, il y avait le vieil homme et ses œuvres, maintenant c'est un homme nouveau. On a l'impression, on peut dire, il y avait l'ancien homme, tout ce qu'on a hérité d'Adam, et maintenant il y a tout ce qui vient de Christ qui est nouveau. Et qui se renouvelle dans la connaissance de Christ. Et au fur et à mesure qu'on connaît Dieu, on continue à se renouveler, on continue à grandir en lui, à changer encore. Je reviens sur la toute première phrase aussi, qui est finalement un peu l'objet de ce que je dis ce matin. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est écrit sous forme d'une question, même s'il n'y a pas le point d'interrogation à la fin. Et je pense que c'est bon de régulièrement se remettre devant Dieu et dire, bah, Seigneur, je ne veux pas remettre en cause le salut systématiquement tous les jours, ce n'est pas le but, mais je veux que mon salut, il ait des conséquences pratiques dans ma vie et que cette conversion-là, qui était un peu peut-être dans ma tête, ça soit vraiment, ça se concrétise dans tout ce que je fais. Dans Romains 6, au verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, j'insiste hein, sur certains mots, vous lisez, regardez quand je lis, quand vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous dis, hein, ça parle de changement partout dans les lettres de Paul. C'est assez marrant quand on le constate et qu'après on lit plus que ça en fait. Vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres de la justice. C'est assez marrant comme formulation parce qu'en fait, on est libre de la justice. On n'est pas lié à la justice, on n'est pas l'impression qu'on était libre, mais c'est pas le cas parce que esclaves du péché. Maintenant, on n'est plus libre de la justice. Je le comprends dans le sens où la justice, c'est Christ, et on est lié à Christ, en fait. On est lié à la justice, et on ne peut plus faire autrement. C'est un peu comme si on était, peut-être mal choisi, mais le juge, il est lié à la justice, il est obligé d'appliquer les choses correctement, il n'y a plus le choix. C'est dans ce sens-là où il est lié à la justice. C'est une image qui vaut ce qu'elle vaut, mais... Vous êtes affranchi du péché et devenu esclave de Dieu. Et toujours, vous avez pour fruit la sainteté, pour fin la vie éternelle. Alors que quel était le fruit avant ? Quel était le fruit dans ce que j'étais avant, moi aussi ? Quels fruits portiez-vous alors ? C'est le verset 21. Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. On parle des fois avec Maïd de l'éducation des enfants, forcément. Et on se dit qu'il y a des trucs où je vais avoir beaucoup de mal. Parce que j'étais quand même relativement casse-pied, étant enfant, à l'école ou à l'école du dimanche, il y en a qui peuvent attester. Et en fait, malheureusement, je suis en train de prendre conscience de certaines choses. Hein. Malheureusement, il y a des trucs dont j'ai pas honte encore. Ce qui fait, comment est-ce que je vais dire à Raphaël, mais fais pas ça, et lui dire, voilà, fais les choses correctement, si déjà j'ai pas honte moi-même. Déjà, je vais lui dire, fais pas ça avec un sourire. Ça, niveau pédagogique, ça va pas être top, je pense. Mais voilà, il y a quelque chose ici où j'ai pas encore honte de ce que j'ai, pas de tout. Il y a des trucs où j'ai déjà honte, ça c'est bien. Mais il y a des trucs où je me dis, c'était pas méchant, c'était pas si mal que ça. Et puis voilà, en fait, c'est un peu notre situation des fois avec le péché. C'est bête, mais ouais, c'était pas si mal que ça, c'est des petits trucs, des bricoles, c'est pas non plus, c'est pas dramatique non plus. Et en fait, Paul nous dit, il faut avoir honte, il faut rougir du fruit qu'on portait avant. Parce qu'il est complètement différent de la sainteté. Mais mes bricoles, c'était des bricoles, mais ce n'était pas la sainteté, loin de là. Notre fruit, c'est la sainteté maintenant. Tout ça, c'est un travail d'une vie. Hein. On avait pour but la mort. C'est ça que ça dit, hein. Le salaire du péché, c'est la mort, et la fin de ces choses, c'est la mort. Alors la fin, on peut le voir des deux façons. Hein. Soit la fin, le bout de tout ça, tout ce qui est le péché, ça va mener à la mort, ou la fin, le but, c'est la mort. Quand on dit vous avez pour fin la vie éternelle, ça peut être un peu les deux aussi. Hein. Suivre le Seigneur, la sainteté, à la fin, on va arriver à la vie éternelle, et de toute façon, c'est notre but, c'est notre fin. On va s'arrêter dans les lettres de Paul. Je vais revenir à celle qui m'a parlé moi au départ. Là, si je vous dis tout ça, c'est parce que moi ça m'a parlé et que moi ça continue à travailler aussi pour avancer avec le Seigneur. C'est notre but à tous, j'espère. Éphésiens. Éphésiens, je vais avoir du mal parce que en fait j'aurais voulu citer toute la lettre, mais que on va pas pouvoir tout lire. Je vais essayer de vous raccourcir un peu ce que j'ai lu et ce que moi j'en ai appris. Enfin, c'est surtout ce que j'en ai lu en fait. J'ai l'impression que ces trucs-là, il suffit de les lire. Je vais au micro juste pour lire en fait, mais au moins on fait l'effort de le lire et d'en parler tout haut. Mais il y a beaucoup de trucs où il n'y a pas grand-chose à dire. C'est quand on fait des commentaires, on a l'impression de répéter ce qui est déjà écrit. Donc je vais vous lire tous les passages moi qui m'ont marqué, ou une partie en tout cas. Éphésiens chapitre 4, au verset 17. Donc, on lit toujours dans le, dans l'optique, le changement, la transformation. Comment j'étais avant, comment je deviens maintenant. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ça nous décrit avant, hein, je vous rappelle. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par elle. Ouais, on va la reprendre au début. Je suis en train de la bafouiller, cette phrase. Elle est longue, cette phrase-là. Hein. Alors, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc tous les... Voilà. Si du moins vous avez c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller, que vous avez été instruit à être renouvelé, que vous avez été instruit à revêtir l'homme nouveau. Des fois, il faut reprendre le début de la phrase et essayer de voir un peu où on va. Donc, avant, je marchais comme un païen, j'étais un païen. Je marchais selon la vanité de mes pensées, l'intelligence obscurcie, étranger à la vie de Dieu. Voilà, ça, c'est. On est censé quand même s'arrêter, regarder notre vie avant Christ et dire, ben ouais, c'est ça. Parce que si ça ne correspond pas à ça, c'est qu'il n'y a pas eu un changement. Enfin, c'est qu'il n'y a pas eu un changement conséquent depuis. La première chose que fait le Seigneur, c'est nous montrer comment était notre vie avant et du coup pourquoi c'est nécessaire de changer. Si notre vie n'était pas mauvaise, ben alors vous n'avez pas d'intérêt à suivre le Seigneur. Il vous manque encore la prise de conscience du péché. Donc vous n'avez pas appris Christ. Et donc après, ça nous parle de nous dépouiller du vieil homme, on y revient, à être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence, à revêtir l'homme nouveau. La suite d'Éphésiens 4, donc ça c'est la partie théorique de Paul, toujours. À partir du verset 25, là on voit les conséquences pratiques que ça doit avoir dans notre vie. Et là c'est pareil, hein, quand on voit la liste, il y a du boulot pour après nous essayer de dire, bah voilà, où est-ce que j'en suis par rapport au Seigneur sur chacun de ces points-là. C'est pourquoi, renoncer aux mensonges, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Contrairement à avant, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et on peut continuer après quasiment toute la suite d'Éphésiens. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Il y a du boulot. Hein. On retrouve toujours le contraste, renoncer aux mensonges, parler selon la vérité. Avant, on péchait en se mettant en colère, maintenant, il ne faut plus donner accès au diable. Avant, on pouvait dérober, enfin, on pouvait. Ça pouvait nous arriver, c'est pas dans le sens où on avait le droit. Hein. Maintenant, on ne doit plus dérober, on doit faire le bien avec nos mains. Avant, il pouvait nous arriver de dire du mal avec notre bouche. Maintenant, on doit donner des bonnes paroles qui servent à l'édification. Avant, on pouvait être habité par l'amertume, l'animosité, la colère, tout ça. Et maintenant, on doit être bon, compatissant, pardonner comme Dieu. Le chapitre 5, il continue exactement sur la même lancée. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu, pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc devenez les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Avant on était esclaves, maintenant on est enfants, on est héritiers. Avant on imitait le diable, c'est ce que Jésus dit aux pharisiens, il dit « Vous aviez pour père le diable, le menteur, et vous faisiez les œuvres de votre père. Maintenant, à nous de faire les œuvres de notre nouveau père, de Dieu. » Verset 3 du chapitre 5. « Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, mais qu'on entende plutôt des actions de grâce. » Et ça nous rappelle aussi qu'il y a un jugement si on se tourne vers le Seigneur et que dans un sens on continue à faire toutes ces choses. Donc, le « si » de tout à l'heure, de la question, si vous en souvenez, c'est indiqué que si vous faites encore toutes ces choses, il y a un petit souci avec votre conversion, elle n'est pas complète et il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, ça nous dit « Sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Si vous faites encore ces choses, vous n'êtes pas héritier, vous êtes encore esclave. Le changement, il n'y a pas été complet. L'œuvre de Dieu, elle n'est pas complète en vous. » Au verset 8, on retrouve toujours ce contraste avant, après. « Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Est-ce que ça, pareil, ça caractérise ma vie maintenant? Est-ce qu'on peut dire que je suis un enfant de lumière? Et si je suis un enfant de lumière, c'est ce que nous dit le verset d'après, il y a le fruit de la lumière. On porte toujours des œuvres en fonction de ce qu'on a dans le cœur. Le verset 9, « Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière. Car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. » On voit vraiment ce contraste entre les ténèbres, tout ce qui est caché, et la lumière, tout ce qui est fait en plein jour, en fait, qui n'a pas besoin de cacher parce que c'est bon. Il faut que je sélectionne, on ne pourra pas tout lire. Je vous encourage à tout lire chez vous, vraiment. Quand on lit la suite et qu'on le regarde sous cet angle-là, c'est vraiment intéressant et ça nous permet, nous, de nous comparer par rapport à tout ça et de voir où on en est et de continuer à avancer, en fait, tout simplement. Versets 22 et verset 25. « Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » Et le verset 25, je les mets à deux, comme ça je frustre personne. « Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. » Ça, en fait, ça n'a aucun sens si on n'appartient pas au Seigneur, si on ne fait pas les choses comme le Seigneur le veut. « Que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. » Les gens qui ne sont pas chrétiens n'ont rien à faire, et pour eux, ça ne veut rien dire. « Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église. » C'est pareil, un mari qui n'est pas chrétien, ça n'a pas de sens pour lui, il ne sait pas ce que ça veut dire. Tout ça, c'est juste des conséquences pratiques de ma conversion, du fait que je me suis tourné vers le Seigneur. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'on a lu depuis le début, en fait, la débauche, l'impureté, les propos, tout ce qu'on a pu lire, l'amertume, l'animosité, la colère, la clameur, on en a lu des piles et des piles, hein, de tout ça. Que les femmes soient soumises, que les maris aiment leurs femmes, ça fait partie du même paquet, ça fait partie de la même chose, c'est toutes les conséquences de ma conversion au Seigneur. C'est toute la partie pratique de ça. Comme j'ai oublié les enfants, même s'ils ne sont pas là, chapitre 6, verset 1, ça continue, c'est juste les conséquences encore une fois. « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. » Il y a des conseils valables pour tout le monde et les changements doivent se voir dans vraiment tous les domaines de notre vie, dans l'ensemble de notre famille, on doit le voir. Et encore un conseil pour les pères, il y en a un petit peu plus pour eux. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Il y en a après pour les serviteurs, il y a toute la liste en fait. C'est uniquement la conséquence de ma foi, de ma conversion au Seigneur. Alors c'est quoi le but de tout ce que je vous dis? C'est juste de, ouais, le côté pratique de la foi. Est-ce que vraiment toutes ces choses-là ont changé dans ma vie? Du coup, le verset qui résume un peu ça, c'est 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Examinez-vous vous-même, c'est pas juste essayer de regarder un peu dans votre tête si vos idées elles correspondent à ce qui est dans la Bible. C'est, à mon avis, ça c'était vraiment regarder votre comportement. Est-ce que ça correspond à tout ce que je dis là? Est-ce que ça correspond à la lumière? Est-ce que ça correspond à un enfant de Christ ou à un esclave? C'est examinez-vous vous-même, c'est regarder quel fruit vous portez. Est-ce que c'est un fruit qui correspond à Dieu ou est-ce que c'est encore un fruit qui correspond au malin? C'est bon de regarder aussi ce qu'on a pu avancer avec le Seigneur. Il y a des choses où avant je ne pouvais pas le lire et me dire ah ouais, mince, c'est encore à faire. Maintenant, enfin, avant je le lisais et je disais mince, tout ça c'est encore à faire. Maintenant il y a des trucs que je dis ah, ça c'est bon, c'est fait. C'est pas dire que je vais pas faire marche arrière des fois. Hein. Faut faire attention de mettre le frein à main pour pas repartir en arrière. Mais voilà, il y a des trucs où le Seigneur il m'a permis d'avancer et c'est encourageant, ça fait du bien. Et il y a des trucs où voilà, faut regarder, faut pas juste s'asseoir et dire je suis converti, maintenant je vais attendre que le Seigneur il me change. On a un travail à faire aussi et notre travail c'est aussi de regarder là où ça va pas et de faire l'effort pour travailler à ça. On lit je sais plus où travailler à votre salut. Bah c'est ça, c'est pas juste essayer de faire correspondre encore une fois vos doctrines avec celles de la Bible. C'est travailler là les points où ça va pas, où c'est pas un fruit de lumière, et ben aller vers le Seigneur. Et vos efforts, c'est surtout ça en fait. C'est la prière, la prière, la prière. Seigneur, je vois qu'il y a encore ça qui va pas. Je veux le changer parce que je vais être complètement lumière comme toi, tu es complètement lumière. Je vais être complètement saint parce que toi, tu es saint. Alors, ça veut pas dire que je suis parfait et qu'il n'y a plus rien à faire. Ça, c'est. Je suis pas sûr qu'on avait cité Philippiens, donc un petit verset de Philippiens. Philippiens, verset 3. On a cité tout à l'heure. Philippiens 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. C'est Paul qui dit ça. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Notre but, c'est quoi? On l'a vu tout à l'heure, c'est la vie éternelle. C'est la sainteté. C'est la ressemblance à Dieu aussi. C'est marrant, c'est que je vous dis, Paul nous dit, je ne suis pas parfait, je n'ai pas atteint le but. Et si on lit la suite, parce que je pense qu'il y en a qui vont déborder sur la suite, au verset 15, nous tous donc qui sommes des hommes faits, il y a des traductions qui disent nous tous qui sommes des hommes parfaits, ayons cette même pensée. Alors, on est parfait, on n'est pas parfait. Si on est déjà parfait, tout ce que je vous ai dit, ça tombe à l'eau. On ne l'est pas, mais on l'est quand même. En fait, aux yeux de Dieu, il a fait son œuvre, tout est accompli. Et à ses yeux, on est parfait. Même si, concrètement après, il y a à travailler pour accéder à cette perfection en pratique et dans les faits. Mais quand je vais aller devant le Seigneur, même si je n'ai pas terminé 100% tout le travail qu'il y avait à faire dans ma vie, comme Paul, finalement, eh ben, lui me verra comme parfait parce qu'il y a son sang qui recouvre tout ce qui ne va pas encore. Mais c'est pas une raison pour laisser voilà bon je laisse tout n'importe quoi de toute façon quand j'irai devant le Seigneur je serai parfait. Là c'est pas correct comme comportement. Et c'est que j'ai pas compris le salut déjà. Et terminer avec une dernière citation dans 2 Corinthiens 3. Là on parlait du but à atteindre. Le verset 18. Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Ça résume quasiment tout ce qui a été dit. Je me tourne vers le Seigneur, je l'accepte comme sauveur, et après je suis transformé de gloire en gloire, et le but c'est de lui ressembler. Et ça, ça permettra de le servir dans ma vie, auprès des autres, ça la conseille. Enfin, une fois que ça c'est fait, tout le reste ça en découle en fait, il n'y a pas de problème. Voilà, je vais m'arrêter là. Seigneur, merci de nous ouvrir les yeux sur des paragraphes qu'on n'avait pas forcément lus comme ça. Merci pour ta parole qui est riche et qui est cohérente, Seigneur. Merci pour tous ces exemples aussi de personnes qui ont été transformées. Et Seigneur, nous voulons être de ces exemples-là aussi. Seigneur, qu'on puisse donner nos noms en exemple et dire, bah, lui, avant il était comme ça, maintenant il est enfant de lumière, il est sauvé, il est saint. Et Seigneur, on te prie de continuer à travailler dans nos cœurs, d'agir d'un côté pratique, Seigneur, de ne pas nous laisser nous asseoir dans l'église, à avoir des belles pensées, des belles réflexions sur les doctrines de la Bible, mais Seigneur, qu'on puisse vraiment voir le côté pratique de la foi et continuer d'avancer avec toi. Merci Seigneur, parce que c'est le fruit que nous portons qui permettra aux autres de te rencontrer et de te connaître, Seigneur. Amen.